Que le nom du Seigneur soit béni. Nous sommes conscients de la grâce qui est la nôtre, que de nous retrouver dans sa présence. J'aimerais faire une ou deux lectures avec vous. La première dans l'évangile de Luc, ça s'est passé après la résurrection. Bien sûr que, à part Marie, Marie de Béthanie, qui avait compris que Jésus-Christ allait mourir, ils étaient très très peu nombreux à comprendre certaines choses. Et regardez ce que Jésus a fait dans l'évangile de Luc au chapitre 24 et au verset 45. C'est quelque chose que nous avons tous besoin de vivre, tous je dis bien. Le plus avancé parmi nous a besoin de vivre ce que nous allons lire. Si quelqu'un pensait être dispensé de cela, c'est qu'il n'est même pas converti, c'est évident. Luc chapitre 24, verset 45. Regardez ce qui est écrit. « Alors, c'est de Jésus qu'il parle bien sûr, alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. » N'oublions pas qu'ils avaient passé 3 ans et demi avec Jésus, qu'ils avaient vu des choses extraordinaires, qu'ils avaient entendu des sermons merveilleux, car les plus beaux sermons qui ont été prononcés, ce sont ceux que Jésus lui-même a dit. Et pourtant, ils n'ont pas compris. Ils avaient besoin que leur esprit soit ouvert. Est-ce que vous pensez que ça nous concerne? Est-ce que vous pensez que même si nous connaissons les Écritures, si nous les avons sondées, nous avons besoin que Dieu nous ouvre l'esprit? Est-ce que vous pensez que vraiment nous en avons besoin? Oui, moi le premier. Moi, je peux témoigner que j'ai besoin de faire cette prière. Seigneur, ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux. Dans l'évangile de Jean, il y a un texte qui nous interpelle beaucoup. Évangile de Jean, chapitre 12. J'en ai parlé il y a 3 semaines. Il indique, en plus, une clé pour que son œuvre multiplie. C'est quand même quelque chose qui nous intéresse. Que l'œuvre de Dieu prospère. Oui ou non? C'est quand même, c'est pas une question d'intérêt, c'est que c'est la volonté de Dieu que des âmes soient sauvées. Lisons ensemble dans Jean au chapitre 12, verset 23. Jésus leur répondit, « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. » Amen. Vous pouvez dire amen. Car c'est exactement ce que Dieu veut. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Alors beaucoup de chrétiens se précipitant pourraient dire « Ah ben moi je sers Dieu justement, je visite les malades, ou je prêche l'évangile, ou je joue de la guitare à l'église, ou je m'occupe des enfants. Donc il y a de fortes chances que Dieu m'honore. » C'est pas du tout ça que ça veut dire. Là c'est sûr que ça ne veut absolument rien dire. Ce n'est pas parce qu'on prêche, qu'on joue de la guitare, qu'on visite des grand-mères, etc., que le Père va nous honorer. Vous comprenez bien que quand Jésus dit « si quelqu'un me sert, le Père l'honorera », ça sous-entend que nous devons suivre le Seigneur. On ne sert pas Dieu sans le suivre. Et il est peut-être souhaitable que nous révisions ce que signifie « suivre le Seigneur ». Qu'est-ce que ça veut dire « suivre le Seigneur » ? Est-ce que ça veut dire, voilà, je connais les Écritures par cœur, moi je m'applique à demander aux jeunes pasteurs qu'ils apprennent des textes par cœur. Je pense que c'est utile de connaître des textes par cœur. Mais je ne pense pas que c'est ça, suivre le Seigneur. La preuve, regardez un peu dans Jean au chapitre 5. Dans Jean au chapitre 5, vous savez que la religion des pharisiens, c'était la religion la plus pointue à l'époque, la plus pointue, la plus religieuse, la plus fervente, etc., etc. Regardez ce que Jésus est obligé de dire à ces gens qui connaissaient la Torah sur le bout des ongles. Vous savez que les véritables pharisiens étaient capables de réciter la Torah, les 5 premiers livres de la Bible, les Pentateuques, par cœur. Regardez ce qu'il leur dit, Jean chapitre 5, verset 39. « Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle? Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. » Est-ce que c'est bien de sonder les Écritures? Il sondait les Écritures. C'est quelque chose que Dieu veut. Et pourtant, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais c'est simple. Ça veut dire qu'on peut se perfectionner dans l'enseignement, se perfectionner dans la théologie, se perfectionner dans l'enseignement de la doctrine, connaître les choses de Dieu, connaître les histoires de Dieu par cœur et ne pas le suivre. Vous avez vu? Et vous ne voulez pas venir à moi. C'est ce qu'on a vu dimanche après-midi, la grande confrontation entre Jésus, le Fils de Dieu, et Nicodème, le docteur d'Israël, deux hommes importants, un qui représentait la religion dans son plus haut niveau religieux, et Jésus-Christ qui représente la spiritualité et qui lui seul est capable de donner la vie. Et quand Jésus dit « Mais si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. » Vous comprenez bien que c'est adressé à l'individu, mais c'est également adressé à une église. Si une église suit Jésus, le Père l'honorera. Ne nous imaginons pas que Dieu nous honorera si on n'obéit pas à sa parole. C'est comme les gens qui se réclament du psaume 23, « L'Éternel est mon berger, il restaure mon âme. » Si vous ne vous nourrissez pas de la parole de Dieu et si vous ne suivez pas Jésus-Christ, vous pouvez chanter ce cantique tant que vous voudrez, ce n'est pas vrai. L'Éternel, il faut qu'il restaure notre âme pour qu'il soit vraiment notre berger. Alors, il faut que nous soyons sérieux avec cette affaire, hein, parce qu'il y a quand même une grande vérité, c'est que Jésus va parler de ce grain de blé qui meurt. C'est ça, suivre Jésus. C'est le suivre dans les expériences qu'il veut que nous fassions. Est-ce que vous voulez faire des expériences, celles que vous avez envie de faire vous? Tiens, j'aimerais faire une expérience. Ou est-ce que vous voulez faire la volonté de Dieu? Est-ce qu'on peut faire des expériences tout en étant dehors de la volonté de Dieu? Mais bien sûr. Mais on en voit plein. Il y a plein de gens qui font des expériences. C'est extraordinaire, même comment Dieu est bon. Comment Dieu est capable de faire certaines expériences à certaines personnes, mais que les gens ne sont pas du tout intéressés par le salut de leur âme. Vous rappelez les 10 lépreux? Les 10 lépreux, ils sont arrivés, et ils avaient le souci, ils avaient compris que Jésus était capable de guérir, ils s'approchent de Jésus, et Jésus leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Aujourd'hui, on discuterait. Ils disent, attends, on dirait aujourd'hui, attends, tu nous guéris, et puis après on va y aller, on ne va pas passer pour des ploucs, on ne va pas y aller comme ça. Et il est dit qu'ils sont partis, ils ont obéi. Et pendant qu'ils y allaient, ils furent guéris. Et il n'y en a qu'un qui est revenu s'occuper du salut de son âme. Il n'y en a qu'un. Donc vous voyez, 90% sont capables de faire des expériences extraordinaires avec le Seigneur, mais ils sont souvent peu nombreux, ceux qui reviennent à lui pour connaître l'importance du salut plus que de la guérison. Béni soit Dieu lorsqu'il guérit. Tout à l'heure, j'ai discuté avec une jeune fille qui est venue jeudi soir et qui a fait une expérience extraordinaire. Je pense qu'elle donnera son témoignage dimanche, puisqu'elle m'a dit qu'elle le ferait. Vraiment, jeudi soir, cette jeune fille a fait une expérience extraordinaire. Et elle a voulu enchaîner cette expérience avec une conversion. Ça, c'est bien. Que Dieu vous bénisse, mademoiselle. Je ne sais pas où vous êtes. Que Dieu vous bénisse. Jésus explique que son désir, c'est que nous soyons, que le Père nous honore. Alors, on est tous intéressés. Est-ce que vous voulez que Dieu vous honore? Vous rappelez quand Saül disait, mais honore-moi devant les anciens. Alors, lui, ce qui est important, c'est ce que les autres pensaient. Ça n'a pas marché. Mais là, c'est quelque chose de plus sérieux. Vous avez lu cette lecture? Vous l'avez lu? Qu'est-ce que Jésus est en train d'enseigner? C'est quoi suivre Jésus? C'est aller à l'église? C'est sonder les Écritures? C'est connaître des versets par cœur? C'est bien prêcher l'Évangile? Est-ce qu'un pasteur prêche bien? Est-ce que c'est pour ça qu'il suit Jésus? Sérieusement? Mais non. Ce n'est pas parce qu'un pasteur prêcherait bien, mettons, 3 fois par semaine, qu'il obéit à Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Mais oui. Est-ce qu'il faut le comprendre, ça? Il y a des gens qui s'imaginent que parce qu'ils servent Dieu, ils obéissent à Dieu. On n'obéit pas à Dieu 3 heures par semaine parce qu'on fait un service pour Dieu. On obéit à Dieu 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Voilà ce que c'est l'obéissance. Voilà ce que c'est quand Jésus dit « Vous m'adorerez en esprit et en vérité ». Donc on relit ce texte quand même parce qu'il est sérieux. Au verset 24, Vous avez vraiment l'explication de ce que c'est vraiment suivre Jésus. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. C'est important, mes frères et sœurs, que nous comprenions ces choses. Il y a l'enseignement historique. On peut dire, voilà, on va parler de ce qui s'est passé du temps de David et Goliath. On peut faire une prédication sur l'histoire, d'accord, de l'Ancien Testament. C'est historique. Il y a derrière l'histoire de David et Goliath un enseignement pour nous. Vous comprenez? Il y a la connaissance intellectuelle, c'est-à-dire, voilà, j'ai appris, je sais que David et Goliath, ça se situe dans... C'est bien, chapitre 17. Bon, voilà, il y a la connaissance intellectuelle, historique, il y a la connaissance intellectuelle, il y a la connaissance doctrinale, il y a des choses qui doivent coller avec l'enseignement de la parole de Dieu. Mais ce que Jésus est en train d'enseigner dans ce texte, c'est l'expérience. C'est beau, là, la connaissance historique, la connaissance théologique, la connaissance doctrinale, la connaissance intellectuelle, c'est bien. Mais c'est le reproche que Jésus fait aux pharisiens, vous sondez les Écritures et vous ne voulez pas venir à moi. Et c'est le grand drame de l'Église, c'est que beaucoup de gens honorent Dieu des lèvres, mais leur cœur est éloigné de lui. Et ils ne veulent pas cette affaire de mourir à eux-mêmes, ils veulent garder leur vie, d'ailleurs Jésus le dit, celui qui garde sa vie, il la perdra. Et suivre Jésus, c'est le suivre dans sa mort et le suivre dans sa résurrection. Alors c'est une affaire très compliquée. À ce sujet, j'ai préparé, parce que je pense que c'est même pas avec une prédication qu'on va pouvoir le régler cette affaire. Je vous ai préparé deux exhortations. J'ai travaillé, je vous l'ai dit dimanche si vous étiez là, j'ai beaucoup pleuré. Et je savais très bien que Dieu voulait changer certaines choses. Vous allez, si vous le voulez bien sûr, parce que comme je viens de le dire, ce n'est pas intellectuel, ce n'est pas religieux, ce n'est pas doctrinal. Bien sûr qu'il y a de la doctrine, croyez-moi, c'est conforme à la doctrine. Ce n'est pas théologique, c'est pour ceux qui veulent l'expérimenter. Je ne suis pas sûr que parce que nous sommes ce soir dans la maison du Seigneur, nous voulons tous obéir à Dieu. Peut-être que vous avez envie de dire, voilà, je vais à l'église, je lis, je prie, je suis avec des chrétiens, on chante des beaux cantiques, ça doit aller pas trop mal avec Dieu. Les chrétiens de la Odyssée ne savaient pas où ils en étaient. Et pourtant, c'était l'église du Seigneur. C'était vraiment l'église à laquelle le Seigneur s'intéressait, une église dans laquelle Dieu pouvait encore parler, puisque Jésus va leur parler. C'est déjà une grâce quand Dieu peut encore parler à quelqu'un. Parce que laissez-moi vous dire qu'il y a des textes dans la Bible où Dieu ne peut plus parler, tellement le cœur est endurci. Alors là, ce n'est pas bon signe du tout. L'église de la Odyssée est une église qui est en train de sombrer dans une pseudo-spiritualité. Le Seigneur a encore le pouvoir de lui parler. Et c'est la question que je nous pose pour commencer, malgré le fait que nous soyons ce soir dans sa maison. Dieu regarde au cœur, il est sur son trône ou sur son avion en train de regarder si on peut doubler ou pas. Mais Dieu, il voit où nous en sommes. Est-ce que vous êtes d'accord? Le Seigneur, il sait où vous en êtes. Le Seigneur, il connaît chacun de vous. Il sait où vous en êtes. Il sait s'il y a un décalage entre ce que vous lui dites et ce que vous vivez. Parce que ça peut arriver, ça. Comme vous rappelez le reproche que Dieu fait à cette église de Laodicée? Tu crois que tu es riche et tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Tu t'imagines. Hein. Et tu ne sais pas que tu es pauvre. En plus, pauvre, misérable, aveugle et nu. Et il y a des gens qui, vous voyez, qui s'imaginent, qui suivent Dieu, qui servent Dieu. Et je parle aux pasteurs qui vont m'écouter cette prédication. Combien d'entre vous, vous prêchez, et parce que vous prêchez, vous croyez que vous obéissez? La Bible appelle ça le sacrifice des insensés. Les gens qui font des choses pour Dieu. Et parce qu'ils n'obéissent pas, le Seigneur leur dit, vous faites le sacrifice des insensés. Ça, c'est pour les pasteurs qui s'imaginent qu'ils obéissent à Dieu. Alors, on va lire dans cette affaire. Parce qu'il y a 5 conseils qui vont permettre à Dieu de venir vous rassasier. Gloire à Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait être rassasié par Dieu? Moi, je vous avoue que j'ai envie. C'est une expérience inoubliable.
Vous savez que la Bible parle qu'il y a d'abondantes joies devant sa face. Tu restaures mon âme. Tiens, le psaume 23. Il y a des millions de gens qui vont dire, oh moi, combien de fois des enterrements. Oh, monsieur Gau, vous avez lu le psaume 23. Si vous saviez, c'est mon psaume préféré. Mais bon, quand je discute avec ces gens-là, ils ne connaissent même pas Dieu. Mais vous voyez, c'est sentimental. C'est sympathique, mais ce n'est pas du tout spirituel. Et dans cette église qui ne va pas bien, mais à qui il peut encore parler, le Seigneur va donner quelques conseils, 5, qui s'ils sont acceptés, parce qu'il y a un ordre avec Dieu, les choses ne se passent pas n'importe comment. Si elles sont acceptées, Dieu va pouvoir venir et nous nourrir vraiment. Vous connaissez cette affaire dans l'Apocalypse chapitre 3, au verset 20, c'est une invitation des plus merveilleuses. Je pense que beaucoup de chrétiens ne la réalisent pas. S'ils la réalisaient, laissez-moi vous dire qu'ils s'appliqueraient à mettre en pratique les 5 conseils qui précèdent. Regardez cette invitation. Apocalypse chapitre 3, verset 20. « Voici, je me tiens à la porte. » C'est magnifique. Est-ce que vous pensez que c'est merveilleux? Le Seigneur se tient à la porte de votre cœur. Est-ce que c'est bien? Mais est-ce que vous réalisez ce que ça représente? Mais ce n'est pas des blagues, ce n'est pas une image, c'est la vérité. Ça veut dire qu'il n'est pas loin. Lorsque Jésus est à la porte, ça présente une proximité, mais en même temps, ça présente, il y a un obstacle. Un obstacle avec notre responsabilité de l'enlever, cet obstacle. Apocalypse chapitre 3, verset 20, « Je me tiens à la porte ». Et je frappe. Alors, vous avez vu le mot « voici ». Je vous ai dit que quand on étudie la Bible, il faut tenir compte des coordinations, des conjonctions, pour comprendre que si le reste est vécu, il va y avoir une conséquence. « Je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra. » Voilà, c'est extraordinaire. C'est une église, comme il y en a plein sur la terre, et pourtant le Seigneur propose, pour terminer, une victoire. Est-ce qu'un chrétien aujourd'hui peut être dans la victoire? Ben ouais. Moi cet après-midi, je priais, et je disais au Seigneur, tu vois Seigneur, je ne veux pas être vainqueur. Je veux être plus que vainqueur. Parce que c'est biblique ce que je dis. Ça tient debout ce que je dis, monsieur de Dieu, c'est correct? Mais bien sûr. Est-ce que l'apôtre Paul dit, nous sommes plus que vainqueurs? Voilà, il y a des gens... Parce qu'ils obéissent, c'est intégré en eux, ils savent qu'ils seront victorieux. Oui, d'un côté, il y a les ténèbres qui s'épaississent, oui, il y a des temps difficiles, mais de l'autre, croyez-moi qu'il y aura des vainqueurs. Et les vainqueurs, ce seront les gens qui auront été sérieux avec Dieu, qui n'auront pas dit « c'est bien, cet enseignement, ça correspond à ce qu'on a besoin d'entendre », mais qui, 3 heures après, seront devant leur Internet, ou devant leur PlayStation, ou devant leur télé en train de regarder des cochonneries. Voilà, ça prouve que vous n'avez pas entendu la voix de Dieu. Vous avez écouté avec vos oreilles physiques. Mais si dans 2 heures, vous vous retrouvez en train de regarder des cochonneries, c'est que vous n'avez pas entendu. Vous avez entendu avec vos oreilles parce que vous avez des oreilles physiques, mais les oreilles de votre cœur n'ont rien entendu. Quand Dieu vous parle, laissez-moi vous dire que vous réagissez ou vous empirez. Mais vous devez répondre parce qu'il ne faut pas tourner en rond pendant 6 mois. Vous devez pouvoir dire « oui, je veux souper avec le Seigneur ». Vous n'avez pas envie de souper avec quelqu'un des fois? Ça ne vous arrive pas d'avoir envie de manger avec quelqu'un? Ça ne vous est jamais arrivé d'avoir envie de manger avec quelqu'un? Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir envie de prendre un petit repas avec quelqu'un? Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Pas vous, mais les autres. Pas les amoureux, je parle. Est-ce que ça vous a pas... Tiens, j'aimerais manger avec cet ami. J'aimerais manger avec eux. Passer 1 heure ou 2 avec eux. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Ça fait du bien. Mais c'est exactement ce que le Seigneur propose. Il le propose. C'est quelque chose, je ne sais pas si on est vraiment conscient. Vous avez déjà été rassasié au niveau du petit bidon. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de bien manger, de dire « Oh, j'en peux plus. Je suis rassasié. » Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Est-ce que ça fait du bien des fois? Il ne faut pas abuser. Mais quand même, il y a des textes dans la Bible qui parlent que Dieu veut nous rassasier. Est-ce que c'est bien d'être rassasié spirituellement, être rassasié de paix? Parce que, bon, quand on connaît l'enseignement, quand Jésus dit « mais j'entrerai et je souperai avec lui et lui avec moi », ça sous-entend dans l'enseignement oriental que c'est lui qui va tout amener. Parce que peut-être que vous n'avez pas grand-chose à lui donner au Seigneur. Mais le Seigneur, laissez-moi vous dire, qui peut vous apporter un grand plat de paix, un grand plat de joie. Vous croyez que Dieu est capable de vous apporter ces choses? Mais vous croyez que si vous soupez avec lui, vous allez passer à côté de cette grâce, de ce pardon, de cette consolation, de cette guérison, de cette abondance? Écoutez, ou alors toute la Bible est fausse. Mais lorsque Jésus dit, si quelqu'un entend, et je répète, ce n'est pas les oreilles physiques, béni soit Dieu qu'on ait des oreilles et des yeux. Est-ce que c'est une bénédiction d'avoir l'ouïe? Il y a des gens qui sont sourds, il y a des millions de gens sur la terre qui sont sourds. Est-ce que vous vous rendez compte de la grâce d'entendre? C'est une bénédiction. Mais quelle plus grande bénédiction encore d'entendre avec les oreilles de notre cœur. Jésus a dit, mais vous avez des oreilles et vous n'entendez pas. Et cette invitation, elle corrobore tout ce que vous allez lire. Mais écoutez, il ne faut pas le lire ce que je vais vous donner. Il ne faut même pas le méditer, il faut l'expérimenter. Moi, je vous assure, j'avais demandé à Dieu qu'il me parle. Et je vous assure, Dieu m'a parlé. Il y a de certains enseignements, je vous en donnerai d'autres. Et je vous le donne volontairement pour que vous le lisiez afin de l'expérimenter. Si vous ne voulez pas le vivre, ce n'est même pas la peine que vous le preniez. Donnez-le à quelqu'un qui aura envie. Ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine. Je vous le dis sérieusement. Si c'est juste pour dire, tiens, je veux voir l'enseignement que M. Go propose. Si c'est juste pour ça, ce n'est pas la peine. Prenez-le, mais ça ne sert à rien. Mais si quelqu'un le prend, pour vraiment dire, je vais vivre ces choses. Parce qu'avec Dieu, ça se vit. Il ne faut pas croire, il faut le vivre. Ce texte d'Apocalypse, chapitre 3, si vous vous mettez à le méditer vraiment, mais qu'est-ce que c'est que Dieu veut? Il veut rentrer, je l'ai compris. Il frappe à la porte, c'est extraordinaire, parce que moi, il y a longtemps que j'aurais fait demi-tour, moi. Mais Dieu frappe inlassablement. Tant que le Seigneur est assis sur le trône de la grâce, il patiente. En vérité, ça fait 2000 ans que ça dure. Bon, pour nous, ce n'est pas pareil, parce qu'on est sur la terre que depuis peu d'années. Mais Jésus est assis sur le trône de la grâce et il frappe. Ça s'arrêtera le jour, c'est écrit d'ailleurs, c'est écrit dans une prophétie, le jour où il ne sera plus assis sur le trône de la grâce, il sera assis sur le grand trône blanc, et là, ça va changer de registre, croyez-moi. Mais en attendant, le Seigneur frappe. Ce soir, il sait où vous en êtes, il frappe à la porte. Peut-être que vous n'entendez pas. Pour pouvoir entendre sa voix, vraiment qu'il nous ouvre l'esprit, parce que c'est bien de lire, il leur ouvrit l'esprit. Laissez-moi vous dire que ça ne marche pas comme ça. Dans le monde, ça peut marcher comme ça. Bon, ça marche. Vous savez, aujourd'hui, il faut tout de suite. Tu veux un café, clac, il faut un café. 30 secondes après, il faut le café. Aujourd'hui, il faut tout de suite. Si tu n'as pas tout de suite, tu t'énerves. Ça ne marche pas comme ça avec Dieu. Pas du tout. Alors, les 5 conseils, est-ce que vous avez déjà réfléchi sur ces 5 conseils de l'Apocalypse? Est-ce que vous avez déjà réfléchi? Michael, pas trop, hein? Je ne sais pas s'il va rester ici, Michael. On va les lire, ces conseils, on va les lire. Mais j'aimerais que vous compreniez que ce que l'on vient de lire, vous savez, le grain de blé qui meurt et qui va vraiment porter du fruit, c'est quelque chose de sérieux, cette affaire. Le grain de blé, ça n'a rien à voir avec le péché. Et les chrétiens aujourd'hui s'occupent que du péché. Pardon pour mes péchés, on n'attend que ça. Bon, c'est vrai que ça peut nous arriver de commettre un péché. Il y a des chrétiens, ça fait 20 ans qu'ils sont convertis, ça fait 20 ans qu'ils sont toujours dans le péché. Ils n'arrivent pas à avoir la victoire parce qu'ils ne sont pas morts à eux-mêmes. Vous allez le comprendre avec ça. Je vous assure, si vous vivez ce que vous allez lire, vous serez délivrés du péché et vous le comprendrez. Alors, les 5 conseils à une église qui ne va pas bien. Il y a 5 conseils, et je vous en supplie, mes frères et sœurs, mettez-vous à genoux chez vous le temps qu'il faudra, mais si vous vivez ces 5 conseils, vous remangerez avec le Seigneur, et vous serez rassasiés. Je te conseille, verset 18, d'acheter de moi, alors vous remarquerez que tout est en Jésus-Christ, tout. Cet après-midi, je lisais l'Épître aux Colossiens, tout est en Jésus-Christ. En lui habite la plénitude de la divinité. En lui sont cachés tous les trésors de la sagesse. Lisez l'Épître aux Colossiens, l'Épître aux Éphésiens. Toutes les bénédictions sont en Jésus-Christ. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. Premier conseil. Afin que tu deviennes riche. Il y a une vraie richesse qui n'a rien à voir avec l'argent, bien entendu. Et des vêtements blancs. Afin que tu sois vêtu
et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et un collyre pour oindre tes yeux, afin que tu voies. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Quatrième conseil, aie donc du zèle. Cinquième conseil, repens-toi. Tout à l'heure, je me suis dit, tiens, tu vas aller voir dans un livre qui est spécialisé dans l'Apocalypse. Qu'est-ce qu'il dit? Et le gars, vous savez ce qu'il dit? Il dit, mais ça, c'est adressé à des inconvertis. Repens-toi, c'est adressé à des inconvertis. Moi, je suis désolé, c'est adressé à des chrétiens, cette affaire. Je ne sais pas comment vous le voyez, mais il faut vraiment comprendre de travers. C'est à une église que Jésus parle. La repentance, ce n'est pas que pour les païens. La repentance, c'est pour les chrétiens qui n'ont plus de communion avec Dieu. Et quand Dieu demande du zèle et de la repentance, c'est que la repentance ne suffit pas et qu'il faut vraiment du zèle. C'est-à-dire, il faut de la détermination, de la résolution, il faut vraiment de l'envie, du zèle. Vous vous rendez compte? À la fin des temps, on pourrait supposer, peut-être que j'exagère un peu, on pourrait presque supposer que la repentance, elle seule, ne suffit pas, qu'il faut vraiment y associer du zèle, du désir, de dire oh, « oui, ça suffit, ça fait des années que je me traîne, je suis chrétien et je suis tout le temps accro à ce péché, je suis chrétien et je suis tout le temps encore jaloux, je suis chrétien et encore je suis avare, je suis chrétien, je dis que je suis baptisé du Saint-Esprit, mais je peux vous dire quand il me faut choisir entre le match de foot et la réunion de prière, j'ai vite choisi. » Mes frères et sœurs, quand quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, comme je le disais dimanche matin, il a envie de ressembler au Seigneur Jésus-Christ. Vous pouvez écouter le tordre comme vous voulez. Quelqu'un qui est rempli de Dieu, il veut ressembler de plus en plus à Jésus-Christ. Oui ou non? Mais quand quelqu'un me dit, je suis rempli du Saint-Esprit, et qui me dit, oui, mais tu sais, moi, le match de foot, quand même, ça fait du bien. Ben, je dis, regarde le match de foot. Ça vous amènera pas pour autant en enfer. Mais le problème, ce n'est pas une question de salut. C'est une question d'être utile entre les mains de Dieu. Et la question que je nous pose, bien sûr qu'il faut faire attention à son salut, parce que beaucoup de gens perdront le salut. Mais la question que je nous pose, c'est celle-ci, est-ce que nous voulons être utiles à Dieu? Pas par un service c'est comme la prédication, ça ne veut rien dire. Je sais de quoi je parle, je le sais. Ça ne veut rien dire à prêcher. Ce que l'Esprit a à dire aux églises, c'est autre chose que la prédication. Alors ces 5 conseils, qu'est-ce que vous en faites? Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Celui qui me sert, le Père l'honorera. Qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que nous faisons de ces conseils? Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. Je te conseille d'acheter des vêtements blancs afin que tu sois vêtu. Alors est-ce que c'est d'un coup de main? Eh bien c'est facile. J'achète des vêtements blancs, Seigneur, sanctifie-moi et purifie-moi. Et voilà, c'est gagné. C'est ça la sanctification d'après vous? Vous croyez que c'est... Moi je pense que c'est un peu plus sérieux que de dire Seigneur, pardon, sanctifie-moi par ton sang précieux. Et voilà, et on est reparti. Moi, je pense que la sanctification, c'est sérieux. Vous êtes d'accord? Marcher dans la sainteté, c'est sérieux. Et je pense que nous devrions nous interroger et nous poser la question, dire est-ce que ça m'éloigne de Dieu ou est-ce que ça me rapproche de Dieu? Je vous le dis. Hier après-midi, j'avais fini ma journée, tout ça, mon travail pour l'église, etc. Une des seules émissions que je m'autorisais à regarder, je vous le dis parce que c'est mon expérience, je ne l'impose pas, parce que je pense qu'il n'y a rien de pire que d'imposer ses expériences aux autres. Je pense que le Seigneur, il nous connaît à chacun. Et le Seigneur va s'occuper chez vous d'un domaine, chez un autre d'un autre. Vous comprenez ce que je veux dire? Je ne veux pas que vous pensiez que ce que je vais vous dire, l'expérience que j'ai faite, Dieu va vous l'imposer. Ce que je veux vous dire, c'est que Dieu sait exactement la victoire que vous avez besoin de prendre. Est-ce que Dieu sait les victoires que vous avez besoin de prendre? Et ça fait des mois que je ne regarde plus la télé, parce que pour moi, je trouve que ça me souille. Même des fois, rien qu'avant les infos des fois de temps en temps, mais les pubs, par exemple, je ne peux plus les regarder. Pour moi, ça me souille. Je le dis franchement. Et hier, ma femme me dit, tiens, j'ai acheté les haricots, tu ne veux pas me les écosser, tout ça. Bon, alors, je vais prendre les haricots. Et comme j'ai vu que c'était 6 heures, je me suis dit, tiens, tu vas regarder, c'est dans l'air. C'est une bonne émission, c'est dans l'air. Enfin, pour moi, c'était une bonne émission. Et je trouve que c'est celui qui fait cette émission, il invite toujours des gens super intelligents qui débattent sur des sujets de société. Franchement, je trouve que c'est bien.
Et hier, je me mets devant la télé, j'allume C'est dans l'air. En plus, c'était un sujet intéressant. Et puis, en écossant mes haricots, j'étais là, je dis, mais est-ce que ça t'éloigne de Dieu ou est-ce que ça t'approche de Dieu, cette affaire? Et j'écoutais ce qu'il disait, vous savez, sur ce qui se passe aujourd'hui en politique. Franchement, c'était intelligent. C'était vraiment très bien. Et puis, au bout d'un quart d'heure, dans mon cœur, j'ai vraiment ressenti ce besoin de m'en détacher. C'était personnel. Je suis pas en train de vous dire ne regardez pas telle ou telle émission. Je pense pas que c'est comme ça que ça marche. Mais je crois qu'en fonction de notre marche avec Dieu, le Saint-Esprit va nous montrer si quelque chose nous approche ou nous éloigne du Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Et ça, c'est quelque chose de personnel. Moi, j'ai entendu des pasteurs dire « Ne faites pas ceci, ne faites pas cela. » Moi, je ne suis pas d'accord. À moins que ça soit quelque chose de flagrant, bien sûr. Par rapport au péché, ce n'est même pas la peine d'en parler. Mais je crois que par rapport à tout ce qui n'est pas péché, mais sur ce qui est péché, il faut s'en éloigner. Vous comprenez, c'est évident. Mais il y a plein de choses qui ont à voir avec l'humain. D'ailleurs, Lucas me faisait remarquer dimanche que lorsque Paul parle de ce à quoi il a renoncé à plein de choses, l'apôtre Paul. Est-ce que ça avait à voir avec le péché, ce à quoi il a renoncé? Non, rien. Ça n'a rien à voir avec le péché. Ce sont des choses de la vie auxquelles il préfère renoncer pour gagner Christ. C'est ce que je suis en train de vous dire. Et lorsque le Seigneur nous demande d'acheter des vêtements blancs afin que la honte de notre unité ne paraisse pas, c'est parce que de toute façon, l'Église, sans la sanctification, ne verra pas le Seigneur. Nous voulons voir le Seigneur agir. Moi, je me suis réjoui tout à l'heure quand cette jeune fille m'a dit qu'elle était venue à l'imposition des mains et qu'elle avait été délivrée de l'alcool, du tabac. Est-ce que ce n'est pas une bénédiction, ça? C'est ça que Dieu veut. Est-ce que Dieu est capable de délivrer, de guérir, de pourvoir? Est-ce que Dieu peut le faire? Mais lorsque Jésus, c'est le Seigneur Jésus, c'est pas le pasteur de l'Église, c'est Jésus qui s'adresse à des chrétiens qui sont en train de basculer dans la tiédeur, en train de s'éloigner, ça prend des tournures assez dramatiques, puisque Jésus dit que les tièdes, il va les vomir de sa bouche. Ça fait quand même cette image, moi je vous assure que elle n'est pas gracieuse cette image, non? Vous avez déjà vomi? Vous avez vu l'image que ça représente? Franchement, est-ce que vous trouvez que c'est agréable? Bon, mais c'est quand même Jésus qui utilise l'image. Celui qui reste dans la tiédeur, je le vomirai. Donc il y a un rejet. Quand on vomit quelque chose, c'est qu'on ne le supporte pas. Si vous vomissez un repas, c'est qu'il était avarié, il y avait quelque chose. Ça veut dire que le Seigneur ne supporte pas certaines choses. Dieu ne supporte pas la tiédeur. Dieu ne supporte pas que nous nous trompions comme ça et que nous empêchions l'œuvre de Dieu de se faire. Donc, il pourvoit. Il dit, moi je reprends et je satis tout ce que j'aime. Il est certain que tant que Dieu continue à nous parler, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est bon signe, ça prouve qu'on est encore à l'écoute. C'est une grande bénédiction quand on continue à aller à l'église, même si on boite un peu, c'est quand même une bénédiction que Dieu puisse continuer à nous parler. Mais qu'est-ce qu'on fait de ces 5 conseils? Il faut que ces 5 conseils soient acceptés et vécus, expérimentés. Pas dire, bien sûr, on le sait, monsieur Gros, ça fait 10 fois que vous nous prêchez là-dessus. On le sait, c'est pas la peine, vous auriez pu nous faire une autre prédication. Eh bien, non. Si vous ne le vivez pas, vous avez besoin de l'entendre encore autant de fois, peut-être, que Dieu le voudra, jusqu'à ce que vous l'expérimentiez. Ça, c'est un orgueil total de la part des chrétiens et de la part du pasteur, quand on se dit, ça, on l'a entendu déjà 2 fois, ou on l'a prêché déjà 10 fois, on va pas revenir, qu'est-ce que les gens vont penser? Que Dieu nous accorde cette grâce, que s'il doit nous répéter les choses 50 fois, eh bien, nous ayons l'intelligence de comprendre qu'on en a besoin. Si Dieu donne 5 conseils, en plus, c'est pas très compliqué, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. Je l'ai déjà dit, mais certains ne l'ont pas compris. De l'or éprouvé par le feu, c'est du temps de qualité jusqu'à ce que notre cœur soit fondu, puisque je reprends l'image du fondeur, jusqu'à ce que le Seigneur puisse enlever les scories, parce qu'un fondeur, un orfèvre, il prend l'or en fonction des carats qu'il veut, et il le fait chauffer à très très haute température, et lorsque vous savez que les scories remontent, si le gars, il veut, si dans, par exemple, dans l'or, il y a de l'argent, il y a du fer, il y a de l'aluminium, il peut y avoir de tout dans l'or, de l'argile. Et on fait fondre, Et on peut enlever, on peut enlever la terre, l'argile, mais on peut aller jusqu'à des choses encore plus précieuses, jusqu'à ce qu'il ne reste que l'or. Et c'est exactement ce que Dieu peut-être est en train de faire. Je reste dans sa présence. Vous voyez, moi, je vous parle de cette émission que j'aimais bien. Mais bon, je ne dis pas que je ne la regarderai plus. Mais je sais que hier, j'en ai déduit que ce n'était pas quelque chose qui était bon pour moi. Je pense savoir à peu près où j'en suis. Et je veux que Dieu perfectionne ma vie. Je ne veux pas être un bon pasteur, un bon prédicateur. Je veux être un vrai chrétien. Vous comprenez ce que je veux dire? Est-ce que vous me suivez? Je veux être un disciple, pas un bon prédicateur. Des fois, on me dit, oh, monsieur Gou, vous êtes un bon pasteur. Je préférerais qu'on me dise, monsieur Gou, vous êtes un vrai chrétien. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, ça me ferait plus plaisir qu'un bon prédicateur. Et quelqu'un qui va en arriver à ce moment où il va être rassasié des mets succulents et gras que la parole de Dieu donne, c'est quelqu'un qui ne va pas se présenter comme ça devant Dieu, « Seigneur, rassasie-moi, le pasteur a dit qu'on pouvait être rassasié, rassasie-moi. » Ce n'est pas comme ça que ça marche. Je crois qu'on ne se moque pas de Dieu. Et si le Seigneur dit, voilà, ça commence, il te faut acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, plutôt que de dire, « Ah, mais moi, je n'ai pas le temps. » Moi, j'ai du boulot, j'ai pas le temps de lire, j'ai pas le temps de prier, moi, je suis à la bourre. Vous comprenez, c'est comme ça. Dieu, il le sait, bénis-moi, ça marche. Eh bien, faites-le. Mais restez comme ça. C'est pas Dieu qui va vous obliger, mais vous ne connaîtrez pas cette grâce d'être honoré de Dieu. Vous ne connaîtrez pas cette grâce que Dieu vous utilise. Même si vous faites un service, serait-ce la prédication ? Serait-ce le service le plus, entre guillemets, spirituel de l'Église, laissez-moi vous dire que ce n'est pas pour ça que Dieu nous honorera. Dieu honorera ceux qui seront vraiment sérieux et qui diront « Oui, je veux être ce grain de blé, je veux descendre en terre, je veux mourir à moi-même, je ne veux pas que ma vieille nature prenne le dessus, je veux non seulement renoncer au péché, mais je veux être dépouillé de ma vieille nature, je veux ce temps de qualité, jusqu'à ce que Seigneur, tu me montres ce qui ne va pas. » Parce que c'est, même si on vient vous le dire, « Tiens, il y a ça », vous dites « Ouais, de toute façon, c'est lui qui me l'a dit. » Mais si c'est Dieu qui vous le montre, moi, combien de fois, ma femme m'a dit, mais tu sais Gérard, t'as des pointes d'orgueil, tu ne te rends pas compte. Bon, j'ai dit, m'arrête, franchement, combien de fois, mes gosses me l'ont dit. Papa, tu sais, des fois, je trouve que tu es orgueilleux. Bon, allez, arrêtez. Bon, après, que si votre femme ou les gosses, vous pouvez dire, ils peuvent se tromper. Oui, ce qui arrive souvent. Mais quand c'est Dieu qui vous le montre, quelle bénédiction. C'est une bénédiction ou une affaire grave que Dieu vous montre quelque chose. Ben, c'est une bénédiction. Enfin, moi, je ne sais pas comment vous le voyez, mais quel que soit le reproche que Dieu ait à nous faire, s'il nous le fait, c'est pour nous en délivrer. Et moi, je peux vous dire que j'ai supplié Dieu de me montrer certaines choses. Et il l'a fait. Mais ça ne s'est pas fait en 5 minutes. C'est pour ça que je vous ai dit que cet été, j'avais beaucoup pleuré. Les congés, j'ai passé de bons congés, ça c'est clair. Mais je peux vous dire que j'ai passé des bouts de nuit dans mon lit à réfléchir parce que je crois que la seule possibilité, c'est qu'on soit rempli du Saint-Esprit. Et il faut commencer par le début et servir Dieu, être honoré de Dieu, même si c'est ce que le Seigneur veut faire, ça ne va pas se passer comme ça. Seigneur, bénis l'Église, bénis le pasteur, bénis les meneurs de chant, bénis les offrandes, tu vois, pourvois. Seigneur, non, ça ne va pas marcher comme ça. Ça va être beaucoup plus sérieux que ça. Si vous méditez ces deux prédications, moi je les ai lues au moins chacune 20 à 30 fois. Je m'y suis arrêté des heures sur des phrases. Je vous le dis parce que c'était quelque chose d'archi sérieux. J'avais demandé à Dieu qu'il me parle et je vous assure que Dieu m'a parlé. Et quand Dieu dit, mais je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, ça fait 20 fois que je le dis, c'est parce que, mes frères et sœurs, il vous faut choisir si oui ou non vous allez le faire ça. Ou si vous êtes encore assez orgueilleux comme moi je l'ai été pour dire, j'ai pas le temps. Mais si vous n'avez pas le temps, n'ayez pas le temps. Peut-être que Facebook, c'est plus intéressant que de souper avec le Seigneur. Oui ou non? Peut-être que faire comme un jeune me disait de l'église, ah mais moi, je reste des fois jusqu'à 2h30 sur ma PlayStation. Et tout content, vous voyez le gars, un chrétien. Jusqu'à 2h30 du matin. Eh bien, c'est sûr, il n'aura pas le temps de souper avec le Seigneur. Puisqu'il soupe avec sa PlayStation. Mais je ne pensais pas que c'est tout à fait la même nourriture, vous voyez. Et quand Dieu dit, je te conseille d'acheter des vêtements, je te conseille d'acheter un collier. Moi, je vous assure, je termine avec ça. J'ai supplié Dieu, Seigneur, mais ouvre-moi les yeux. Ouvre-moi les yeux. Parce que je la connais, la Bible. Je la connais. Sincèrement, je la connais. Mais ça ne veut rien dire. On peut connaître la Bible et ne pas connaître Dieu. Et je vous assure, moi, j'ai envie de le connaître. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui dit, mais moi, je veux connaître le Seigneur. Comme Paul a dit, mais je veux gagner Christ. Il y a quelqu'un ici qui me dit, mais moi, ces conseils, je vais les méditer. Ces deux prédications, vous allez voir. Moi, je vous assure, ces prédications, elles m'ont jeté à genoux. Je n'aime pas trop parler de mes expériences personnelles, mais c'est quand même la vérité. Jeudi soir, on ira un petit peu plus loin, parce que c'est pour les responsables. Je pense que ce qu'on verra jeudi soir, à 18h et à 19h, je le dis parce que je crois que dans l'Église, il faut quand même que des hommes et des femmes se lèvent. Oui ou non? Est-ce que vous croyez qu'il faut que des hommes et des femmes se lèvent? Mais il ne faut pas se lever pour dire, voilà, moi je me lève, voilà, je vais faire ci, qu'est-ce qu'il faut faire? Ah, il faut visiter les mémés. Ah, eh bien, je vais visiter les mémés. Bon, c'est bien. Mais ce n'est pas ça que je veux que vous compreniez. Il y a un état de cœur. Et c'est ça que Dieu attend. Ce n'est pas ce que vous faites qui est important aux yeux de Dieu. C'est ce que nous sommes. Est-ce que vous comprenez? C'est ça qui est important. Alors, priez. Jeudi, je vous donnerai une autre prédication, un petit peu plus pointue, un peu plus profonde. Si vous ne vous êtes pas là jeudi, je vous la donnerai dimanche. Mais ne le lisez pas d'un trait, ça ne sert à rien. Si vous méditez ces choses, et si vous dites, Seigneur, mais je vais les lire, mais je vais les expérimenter, ah, ça va vous amener à renoncer. Mais je peux vous dire que ça vaut la peine. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans l'Église qui dit, moi, je veux être utile entre les mains de Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui le pense vraiment? Pas faire un truc utile. Est-ce que c'est utile que je prêche à l'Église? Allez, on termine avec quelque chose de concret. Vraiment concret. Est-ce que c'est utile la prédication dans l'Église? Ben oui et non. Oui et non. Elle est utile si quoi? Si? Oui, mais moi, elle est utile si quoi? Si je prêche un sermon de plus, est-ce que c'est utile? Non. Si j'apporte la pensée de Dieu, c'est utile. Parce que même s'il y a 100 personnes, il y en a peut-être 2 qui vont entendre ce que Dieu a leur dire. Et en le mettant en pratique, Dieu va les bénir. Donc la prédication, vous voyez, elle peut être utile. Mais si le bonhomme, il n'est pas sanctifié, si le bonhomme, il n'est pas dans la vie de l'esprit, la prédication ne sera pas utile. Et c'est valable pour chacun de nous. C'est pour ça que je vous dis, un service, c'est bien, mais ce n'est pas le service qui va faire de vous quelqu'un de spirituel. Ce qui va faire que vous allez être spirituel, c'est que nous allons avoir une vraie communion avec Dieu. Alors, ces exhortations, vous savez, c'est la première fois que je donne une exhortation. Ça fait 31 ans que je suis pasteur, j'aurais pu en donner des... Mais là, si je le fais, vous comprenez bien, c'est que je crois que c'est vraiment utile. Alors, ça serait dommage que vous lisiez ça juste pour lire la doctrine, pour l'intellectualiser. Mais si vous vivez ça... Vous l'avez lu, Monsieur Piette? Vous avez commencé? Comment vous l'avez trouvé? Mais je vous assure, si on vit ces choses, on aura un réveil. Il ne pouvait pas dire autrement, quand même, Monsieur Piette. Mais, mes frères et sœurs, sérieusement, s'il y en a une dizaine qui vivent ça, on va connaître un réveil. Mais il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Alors on va fermer les yeux quelques instants. On ferme les yeux parce que ce grain de blé qui meurt, vous allez le comprendre. C'est magnifique. Et il y a le diable, je vous assure, qui tient à ce qu'on ne le sache pas. Croyez-moi, le diable, il est rusé. Moi, il m'a aveuglé pendant des années, tout en aimant Dieu. Je peux vous dire que j'ai toujours aimé le Seigneur. Mais j'en ai déduit que le diable m'avait vraiment aveuglé. Et si j'ai commencé avec ce verset où Jésus leur a ouvert les yeux, c'est parce que je peux vous dire que vous et moi, nous avons besoin que Dieu nous ouvre les yeux. Vraiment. Et ces exhortations que vous allez pouvoir méditer et expérimenter vont vous ouvrir les yeux. Et je peux vous dire qu'il va se passer des choses dans votre vie. Alors peut-être qu'il y aura du brisement, peut-être qu'il y aura des épreuves, mais tout ça, vous le comprendrez d'une manière intelligente. Et vous verrez que tout peut concourir au bien de ceux qui aiment Dieu. Et que toutes les épreuves ne feront que former Christ en vous. Seigneur Jésus,
nous sommes à tes pieds. Si tu dis dans ta parole que tu veux souper avec tes enfants, c'est parce que tu es capable de nous nourrir et de nous rassasier. Seigneur, nous voulons vraiment entendre ta voix. Tu as des choses à nous dire, à nous redire, ou à nous redire. Seigneur, je le sais. Seigneur, tu donnes des conseils. Oui, c'est vrai que tu t'appelles le conseiller. Seigneur, ces conseils, nous ne voulons pas les jeter derrière l'épaule. Ces conseils, nous voulons les mettre en pratique. Tu vois dans l'Église tous ceux qui ont été légers avec ta parole, tous ceux qui sont encore accrochés aux choses de la terre, tous ceux qui sont accrochés aux choses inutiles et qui les empêchent de connaître cette communion avec toi. Seigneur Jésus, ce que nous voulons, c'est qu'avant que tu ne reviennes, tu trouves une Église qui obéira de cœur, mais avec joie, à tout ce que tu demandes. Car nous croyons que tout ce que tu nous demandes ne peut que nous procurer la joie. Seigneur, bénis mes frères et sœurs. Bénis mes frères et sœurs. Tu sais où nous en sommes. Et nous te prions vraiment de nous garder. Vraiment, garde-nous, Seigneur. Et que ces exhortations nous amènent tous à vivre des choses nouvelles avec toi. Que ton nom soit béni, Seigneur Jésus. Amen.